parler de l'engagement qu'il représente. Alors cela va faire presque 10 ans maintenant, ben pour ma part, que je me suis engagé avec le Seigneur, en passant par les eaux du baptême. Et il m'est venu une chose à l'esprit à ce moment-là. Je me suis dit, maintenant Seigneur, ça commence. Je démarre une nouvelle vie avec toi. Une semaine avant mon baptême, il y avait eu un autre engagement. C'était avec Mélanie. Avec Mélanie, nous sommes passés devant le maire et on s'est dit oui, publiquement. Alors nous avons signé tous les deux un engagement l'un envers l'autre. Après la mairie, nous sommes allés à l'église, nous avons échangé nos alliances, justement en signe de notre engagement, et nous avons demandé à Dieu la bénédiction pour notre vie future. Avant notre mariage, alors du coup, ben, vous allez en connaître un petit peu plus sur moi, nous avons vécu 12 ans en concubinage. On ne sifflait pas, s'il vous plaît. Nous avons eu 2 filles, et nous n'avions aucune raison de nous séparer, parce que nous avions quand même un engagement moral l'un envers l'autre, et envers nos filles. Donc pourquoi faire officialiser par un mariage? Parce qu'on avait cet engagement moral. Enfin, c'est ce que je pensais. Quand on me parlait de mariage, j'ai dit, mais c'est pas la peine, de toute façon, je suis avec Mélanie, on a les enfants, c'est bon, hein, je vais pas me séparer. Je suis engagé moralement vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de mes filles. Mais une fois marié, alors je sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais une fois marié, moi, ça a totalement changé ma vision du couple. Je voyais plus du tout Mélanie. En fait, je disais jamais ma femme. On n'était pas mariés, je disais ma compagne, la mère de mes filles. Mais je ne disais jamais ma femme. Et quand on a signé devant le maire, ah, c'était une fierté. Une fierté de dire, ça y est, c'est ma femme. C'était officiel. Vous savez, le mariage n'est pas simplement un bout de papier que l'on signe à la mairie. C'est un engagement très important que l'on prend, l'un envers l'autre. Et quand une semaine plus tard, ben, je me suis engagé avec le Seigneur, ben, ma relation avec Dieu a pris une autre dimension. Pour 2 raisons. Premièrement, en mettant ma vie en règle, justement, en me mariant, ben, j'obéissais à Dieu. Et en passant par les eaux du baptême, j'obéissais également à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est notre premier verset qu'on peut prendre ce matin, 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Bon, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, s'il va s'afficher, mais je vais vous le lire. Hein. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Alors Samuel, là, ne dit pas que les sacrifices n'ont aucune valeur, parce qu'en fait, les sacrifices, ils témoignent de la relation entre Dieu et l'homme. Mais si le cœur de celui qui fait le sacrifice n'est pas sincère, si l'amour pour Dieu n'est pas sincère, ben ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune valeur. On peut venir à l'église, on peut être dans un service, on peut donner notre offrande. Mais si à côté de ça, on ne met pas la parole de Dieu en pratique, ben c'est qu'au fond de Dieu, au fond de nous, on n'aime pas Dieu. Ou pas vraiment, ou pas assez. Vous savez, je peux me souvenir aux besoins de ma famille, de mes enfants. Mon épouse peut manquer de rien. À la maison, alors je suis un mari exemplaire. Ben c'est bien, il n'y a que 3 témoins. En public, alors là, encore plus. Mais si dans le secret, je trompe mon épouse. Si je ne suis pas gentil avec elle. Si je la traite mal. Si je ne respecte pas mes enfants. Est-ce qu'au fond, je les aime vraiment ? Vous savez, quand on s'est marié juste avant, le matin du mariage, il y a un frère de l'église qui m'a téléphoné. Il m'a dit, ça y est Philippe, t'es prêt? Je dis, ben, évidemment que je suis prêt, ça fait 12 ans qu'on habite ensemble, c'est pas parce que je vais, oui, je suis prêt à dire oui. Il me dit, non mais c'est très important, parce que ce matin tu vas dire oui à Mélanie, mais en disant oui à Mélanie, ben, en fait tu vas dire non à toutes les autres. Et ça, ben, ouais, je dis, j'avais pas pensé, c'est vrai, je dis oui à Mélanie, mais en fait je dis non à toutes les autres. Et j'ai dit oui, je suis prêt quand même. Mais la semaine d'après, quand j'ai dit oui à Jésus, quand on dit oui à Jésus, est-ce que vous savez finalement qu'on dit non au monde et à toutes ses convoitises? Et est-ce qu'on est fidèle à ce oui? Est-ce qu'on est fidèle au Seigneur quand on lui a dit oui, en nous engageant par les eaux du baptême? Si j'aime mon épouse, je lui suis fidèle. Si j'aime Jésus, ben je suis fidèle à sa parole. Jean 14 et le verset 21 nous dit, Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Quand nous sommes devenus chrétiens, ben nous sommes engagés avec le Seigneur. Un engagement, c'est quoi? C'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Un engagement, c'est une promesse. Un engagement, ça peut être une convention, un contrat par lesquels on se lie. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire. Ça, tout le monde peut aller vérifier. Quand j'ai réalisé à quel point je n'étais pas un bon gars, quand j'ai réalisé combien j'étais loin de Dieu, ben quand j'ai lu Jean 3,16, alors ce n'est pas la peine de l'afficher parce que ce verset, on le connaît par cœur, mais en fait, j'ai réalisé combien Dieu m'aimait. Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on réalise bien ce verset? Alors au-delà de donner sa vie pour chacun de nous, il a donné la vie de son Fils. Vous savez, moi j'ai deux filles, et je pense que dans l'Assemblée, il y a plusieurs parents. Je pense qu'ils vont comprendre quand je vais dire ça. Alors j'en connais quelques-uns ici, et je ne vous connais pas tous. Mais je peux m'engager peut-être, si l'occasion se présente, peut-être, et je dis bien peut-être, attention, hein, que je pourrais donner ma vie pour l'un d'entre vous, si l'occasion se présente. Peut-être que je pourrais le faire. Pour mes enfants, mon épouse, ça c'est sans hésiter que je donne ma vie. Mais par contre, une chose qui est sûre et certaine, c'est la vie de mes enfants, impossible que je la donne, pour qui que ce soit. Ça serait au-dessus de mes forces. Et Dieu l'a fait pour nous. Dieu, il a donné son fils pour moi, pour chacun de nous ici. Même si vous n'êtes pas engagé avec le Seigneur, il a quand même donné sa vie, la vie de son fils pour toi. Et quand j'ai réalisé que Dieu a donné son fils pour moi, là j'ai été bouleversé, là j'ai été transformé. Moi qui ne méritais rien, moi finalement qui manquais le but plusieurs fois par jour, ben dans son immense amour, Dieu est venu rectifier le tir pour moi. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je ne dis pas que je ne manque pas le but parfois. Hein. Alors je n'ai pas la prétention de dire que je suis sans péché. Parce que si je ne pêche pas en action, ben je pêche en parole. Si je ne pêche pas en parole, ben je pêche en pensée. Et s'il m'arrive parfois encore de manquer le but, ben qu'est-ce que je fais? C'est facile en fait. Hein. Je demande pardon à Dieu. J'essaye tant bien que mal, finalement, de tenir mes engagements. Et quand on aime quelqu'un, vous savez, eh ben on veut lui faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, ben on ne veut pas le décevoir. Donc si on aime Dieu, on veut lui faire plaisir. Si on aime Dieu, on ne veut pas le décevoir. Quand j'étais jeune à l'école, je me souviens, les copains souvent, ben y en a qui séchaient les cours, il y en a qui avaient des mauvaises notes, il y en a qui faisaient des bêtises. Ils trichaient, justement, pour ne pas avoir de mauvaises notes, pour ne pas se faire engueuler le soir. Et ce que j'avais retenu, ce qui me marquait, c'est qu'il me disait, moi ce que j'ai peur en fait, c'est que mon père, il me corrige. En fait, ils avaient peur de la correction. Ils avaient peur que ça fasse mal quand ils rentrent à la maison. Alors moi, j'ai eu un père en fait qui... en fait, j'avais pas peur qu'il me corrige. Moi, c'est pas ça qui me faisait peur. C'est pas parce que j'avais pas peur de la correction, c'est pas pour ça que je trichais pas à l'école. C'est pas pour ça que je séchais pas les cours. En fait, ce qui me faisait le plus peur, ce qui m'aurait fait le plus mal, même à l'heure d'aujourd'hui, ben, ça aurait été de le décevoir. Et si je faisais ça, si je faisais pas des bêtises, ou pas trop, c'est parce que je voulais pas décevoir mon père. Je voulais pas voir la déception dans ses yeux. Combien de fois dans mes attitudes, combien de fois dans mes pensées, combien de fois dans mes paroles, ben j'ai déçu mon Père Céleste. Est-ce que je suis fidèle dans mon engagement envers lui? C'est le titre du message de ce matin. Suis-je fidèle dans mon engagement? Alors c'est une question que nous pouvons chacun pour notre part se poser. Hein. Par contre, une chose est sûre, c'est que quoi que nous fassions, Dieu y demeure toujours fidèle. Deutéronome 7 et le verset 9. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Sommes-nous fidèles dans nos engagements avec Dieu, dans chaque situation? Alors nous allons lire quelques versets, je ne vais pas les commenter spécialement, mais je pense que chacun pour notre part, on pourrait les méditer sur notre engagement avec le Seigneur. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Bon, vous allez me dire, la colère n'est pas un péché en soi, parce que nous devons avoir la maîtrise de soi. Mais est-ce qu'on peut lire Éphésiens 4 et le verset 26 à 27 ? 26. Le 26 d'abord. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas, ne se couche pas sous votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Qui ne s'est jamais couché en étant en colère après quelqu'un? Alors être en colère, ça peut arriver. Hein, posez pas la question à mes filles et à ma femme, si ça peut arriver. J'étais quelqu'un de très 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 colérique avant de rencontrer le Seigneur. Mais quand je dis très colérique, c'est très colérique. J'ai cassé des pare-brises de voiture, j'ai cassé des portes, j'ai cassé des poignets. Non, j'étais très colérique. Mais l'important, c'était de ne pas me coucher sur ma colère. C'est de reconnaître mes torts. Parce qu'en fait, on n'a aucune raison, on n'a jamais raison de se mettre en colère. On a beaucoup de raisons. On peut avoir beaucoup, beaucoup de raisons de se mettre en colère. Mais on n'a jamais raison de se mettre en colère. Jamais. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors on demande à Dieu de nous pardonner, mais est-ce que nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Tu ne mentiras point. Qui n'a jamais menti? Avant de connaître le Seigneur, j'étais un menteur professionnel. Mais vraiment, je mentais pour tout et je mentais pour rien. Je me rappelle même quand j'étais petit, j'étais parti en colonie. Et un jour, on était parti dans le village, c'était dans les Alpes, non, en Haute-Savoie. Un petit village et on avait tous notre petite porte-monnaie, on avait acheté des choses. Et je me rappelle, il y en avait un qui avait la tente à côté, il avait acheté un pot de Nutella. Et il l'a caché dans sa tente. Et nous, on l'avait vu avec un camarade. Et pendant qu'il y avait des activités, on est rentré dans la tente. Et à tous les deux, on a mangé le pot de Nutella. Il est arrivé le soir, il a vu que son pot de Nutella était vide. Je peux vous dire, il n'était pas content, hein, vraiment pas content. Alors il a fait aligner tout le monde devant les moniteurs et tout ça, pour dire qu'on avoue qui c'est qui avait volé. Alors il avait des doutes sur des personnes, donc il a mis surtout toutes les personnes en doute. Enfin, il a mis tout le monde, mais il a dit, il y a des personnes sur qui je doute. Il dit, je vais poser des questions. Et le moniteur a dit, non mais là, ils sont 5-6, tu poses la question à tout le monde. Donc il arrive à tout le monde. Toi, est-ce que tu as mangé le pot de Nutella? Non, c'est pas moi. Enfin bref, je cherche des excuses. Et il arrive à moi. Donc il me pose la question. Et je le regarde d'un aplomb et je lui dis, mais honnêtement, est-ce que tu crois que je serais capable de faire ça? Et il me regarde et dit, mais Philippe, impossible. C'est impossible, toi. Alors ça, les yeux fermés, c'est impossible que ce soit toi qui ait mangé le pot de Nutella. J'étais un menteur professionnel, mais vraiment. Et maintenant que je suis au Seigneur, que je suis engagé avec lui, je ne mens plus. Mais vraiment, hein, s'il m'arrive de mentir, fais mentir. Je suis repris par le Seigneur. Et je rectifie le tir. Alors je dis, pourquoi je dis je ne mens plus? Un petit peu avant Noël, alors je suis allé faire quelques courses chez Leclerc. En sortant, on peut faire de la pub, c'est pas. Je suis allé chez Leclerc. Ouais, Leclerc, c'est le magasin qu'on a à côté de la maison. En sortant du magasin, il y avait un monsieur en fait, qui demandait de l'argent. Et moi, j'étais pressé, il fallait vite que je rentre à la maison et tout ça. On s'est regardé, donc il me tendait la main. Et moi, machinalement, je lui ai dit, désolé, j'ai rien sur moi, j'ai pas de monnaie. Bon, j'ai rarement de la monnaie, c'est vrai. Mais quand je disais, j'ai pas de monnaie, je pensais à la monnaie que j'avais dans la poche. Je suis arrivé à la voiture, j'ai posé les courses, je suis retourné voir le monsieur, et j'ai demandé pardon. Et je me suis excusé. Enfin, j'ai demandé de m'excuser d'avoir menti, j'ai dit, parce que je vous ai dit que j'avais pas de monnaie. En fait, c'est pas vrai, j'avais de la monnaie dans la poche. Alors je l'ai pris, j'ai donné. On s'est assis, je demandais si je pouvais prier pour lui. On a prié. Et le Seigneur m'a repris. Il m'a repris. Quand nous connaissons le Seigneur, que nous l'aimons réellement, quand on réalise ce qu'il a fait pour nous à la croix, on l'a chanté, hein, ben on ne peut pas rester les mêmes qu'avant. On ne peut pas rester ancré dans un péché. Je me souviens quand je suis venu au Seigneur, quand j'ai réalisé vraiment que je n'étais pas un bon gars, je me suis dit, plus jamais comme avant. C'est terminé. Plus jamais comme avant. Je ne voulais plus être comme avant. Quand nous regardons dans les livres d'histoire, vous savez, il y a un avant et un après Jésus-Christ. On connaît tous les dates. Si vous lisez un peu mon histoire, vous verriez un avant et un après ma rencontre avec Jésus. Et je pense que chaque chrétien, né de nouveau, peut dire la même chose. Je pense que si on ne peut pas dire la même chose, je ne suis pas convaincu qu'on ait vraiment rencontré le Seigneur. Parce que la rencontre avec Jésus, elle bouleverse les vies. Elle change les cœurs. Vous savez, on ne peut pas faire de compromis avec le monde. Luc 9, le verset 23 et 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes ? Sommes-nous prêts chaque jour à prendre notre croix ? Alors je ne sais pas si ce matin dans l'Assemblée, une personne ne serait pas encore engagée avec le Seigneur. Ben, ce qu'on vient de lire, ce n'est pas très engageant, si on peut dire ainsi. C'est comme si je disais à une personne qui désire se marier, ben, attention, le mariage, c'est plein de concessions. Hein. Si tu penses que se marier, c'est recevoir, ben, tu vas vite être déçu. Et tu vas vite comprendre qu'en réalité, le mariage, c'est donné. C'est donné de son temps, c'est donné de sa personne. Mais quand on sait en réalité qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais en fait, on a tout gagné. Vous savez, la marche avec Jésus, on pourrait penser que c'est dur, plein de concessions, plein d'interdits. C'est pour ça que beaucoup de jeunes n'osent pas peut-être s'engager, parce qu'ils pensent que c'est plein de concessions, plein d'interdits, je ne pourrais pas faire ça. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup. C'est un monsieur qui met les sorties, tout le temps les sorties avec les copains, les sorties en discothèque, faire la tournée des bars avec ses amis. Il rencontre le Seigneur et direct, il stoppe toutes ses activités. Après un certain temps, ses amis qui ne le voient plus, ben, ils vont le voir. Et il lui propose des sorties. Il dit, oh, mais tu pourrais venir comme au bon vieux temps, on s'amusait bien, on ne faisait rien de mal. Alors, on allait en discothèque, en plus toi tu aimais bien draguer les filles, tu aimais bien boire un petit peu, on ne faisait pas trop de bêtises, c'était bien. Et il leur explique gentiment que maintenant il est devenu chrétien. Et que toutes ces choses-là, ben, en fait, il ne peut plus les faire. Et il les encourage également à arrêter ce qu'ils font et de suivre Jésus. Et un de ses amis lui dit, alors moi je veux bien, mais on gagne quoi à être chrétien ? Toi par exemple, qu'est-ce que tu as gagné quand tu es devenu chrétien ? Alors il réfléchit, dis-moi, qu'est-ce que j'ai gagné à être chrétien ? Il dit, ben non, j'ai rien gagné. Ben, j'ai même plutôt perdu. Il dit quoi ? Tu perds des choses et tu veux que je vienne ? Tu perds des choses et tu dis, ah non, si on n'a rien à gagner, moi je ne viens pas. Hein. Ben, donne-moi un exemple, qu'est-ce que tu as perdu en devenant chrétien ? Je dis, ben, moi en devenant chrétien, qu'est-ce que j'ai perdu ? J'ai perdu ma peur de mourir. En devenant chrétien, qu'est-ce que j'ai perdu ? J'ai perdu ma colère. En devenant chrétien, j'ai perdu ma rancœur. Quand je suis devenu chrétien, j'ai perdu mes angoisses. J'ai perdu ma peur du lendemain. En devenant chrétien, j'ai peut-être perdu également ce que le monde me propose. Mais la Bible dit dans Marc 8, le verset 36, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Vous savez, rien de ce que peut nous proposer le monde ne peut combler le vide dans nos cœurs, que seul Dieu peut combler. On connaît tous l'histoire de la Samaritaine. Chaque jour, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle allait puiser de l'eau au puits, mais elle avait toujours soif. Jean 4, versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et pour boire de cette eau, nous devons chaque jour être proche de la source. Jésus a dit, « Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Chaque jour, nous devons désirer être près de Jésus pour recevoir justement l'eau qu'il veut nous donner. En 2022, quand nous sommes rentrés avec Mélanie dans le ministère, on m'a souvent dit, c'est super de vouloir s'engager avec le Seigneur. C'est bien en 2022. Mais en réalité, mon engagement pour le Seigneur a commencé en octobre 2015, le jour de mon baptême. Alors je ne sais pas si ce matin, il y a des personnes qui ne sont pas encore engagées avec le Seigneur. Peut-être que tu hésites d'aller plus loin, mais j'ai envie de te dire, n'hésite plus. Ça va faire 10 ans, je suis engagé avec le Seigneur, je n'ai jamais regretté. La route est longue, souvent difficile, parce que je me dis, Seigneur, c'est trop dur de ne pas te décevoir. Je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. Je veux lire ta parole, et mes yeux, ils se ferment parce que je suis trop fatigué. Je veux pardonner à cette personne qui m'a vraiment blessé, mais ça fait trop mal quand j'y pense. Alors je reste dans l'amertume. Je veux te donner mon cœur et te suivre. Oh, mais j'ai trop de péchés, je suis trop sale. Je suis trop sale pour venir à toi. Si tu as les mêmes pensées, laisse-moi te lire un verset. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ connaît nos cœurs. Dieu connaît comme on est. Quand il est monté sur la croix, alors il y a eu un don, il me semble qu'il a dit qu'il avait un don ce matin qui disait qu'il y avait une liste et qu'il avait clouée sur la croix. Moi, ce que je suis persuadé, c'est quand Jésus était sur la croix, il a pris ma liste, il a dit « Oh, Philippe, tu as fait tout ça ?» Mais je pense qu'il n'était pas étonné. La liste était longue quand même, hein. Mais il a pris la liste de chacun, il a dit, c'est pas grave, je vais payer le prix. Vous savez, c'est pas les clous qui ont tenu Jésus sur la croix. C'est son amour pour nous. Jésus, il a tenu ses engagements jusqu'au bout, par amour pour nous. Quand il demande à Dieu d'éloigner cette coupe, il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a porté sur ses épaules le prix de nos fautes. Alors on se plaint parfois de la vie chrétienne, on se plaint peut-être parfois de nos frères, de nos sœurs, de leur attitude, mais Jésus lui n'a pas ouvert la bouche, comme un agneau, comme un à la boucherie. Il a été fouetté, frappé, humilié, on lui a craché dessus, une couronne d'épines sur la tête, on a cloué ses mains, on a cloué ses pieds. Tout ça à cause de nos fautes, de nos manquements. Et quand il frappe à la porte, nous on dit non. Il est mort sur la croix du calvaire pour que nous soyons pardonnés et justifiés auprès de Dieu. Et quand il nous dit « Libère-toi de la rancœur et pardonne à ton frère », nous on dit « Non, c'est trop dur ». Alors moi, je ne veux pas être comme ces personnes que décrit Pierre. 2 Pierre, verset 2:17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Non, je désire être proche du Seigneur, qui est la source d'eau vive pour ma vie. Alors comment tenir mes engagements? Comment être fidèle comme lui est fidèle? Alors c'est facile, hein, en restant au pied de Jésus. Comment tenir mes engagements auprès de mon épouse? Finalement, c'est en entretenant ma relation avec elle. Comment tenir mes engagements envers Jésus? C'est en prenant soin de ma relation avec lui. Vous savez, il y a une prière que je dis souvent dans mon cœur. Souvent, je dis, Seigneur, que ma vie soit le reflet de ma relation avec toi. Alors, si je veux tenir mes engagements avec Dieu, je dois prendre soin de ma relation avec Dieu. Je dois prendre soin de mon intimité avec lui. Alors, quand je manque de patience, je sais où j'ai manqué, dans mon intimité avec Dieu. Quand je manque de foi pour mon avenir, je sais où j'ai manqué, dans mon intimité avec Dieu. Quand j'ai des paroles, des attitudes mauvaises envers mes proches, en fait, je sais où j'ai manqué. C'est dans mon intimité avec Dieu. Quand j'ai du mal à pardonner, je sais où j'ai manqué. C'est dans mon intimité avec Dieu. quand mon couple est en danger, quand je ne sais plus comment agir avec mon conjoint, mais en fait, je sais où j'ai manqué. C'est dans mon intimité avec Dieu. Je n'arrive pas à reconnaître mes torts, je n'arrive pas à demander pardon, mais je sais où j'ai manqué. C'est dans mon intimité avec Dieu. Je ne lis plus la Bible, j'ai du mal à venir à l'église. Voilà, la communion fraternelle, c'est compliqué. Mais je sais où j'ai manqué. C'est dans mon intimité avec Dieu. Vous savez, Jésus était le reflet de sa relation avec le Père. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous savez, nos actions, notre façon de vivre sont juste le reflet de notre relation avec Dieu. Notre engagement sera donc le reflet de notre relation avec lui. Alors mon frère, ma sœur, es-tu fidèle dans ton engagement avec Dieu? Vous savez, certains couples, après plusieurs années de mariage, ils renouvellent leurs vœux. Alors certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une cérémonie officielle, après une réception avec leurs proches, et ils profitent pour renouveler leur engagement l'un envers l'autre. Alors j'aimerais ce matin, pour ceux qui le souhaitent, que nous puissions chacun pour notre part repenser à notre engagement avec le Seigneur. Peut-être faire un petit récapitulatif des années passées, de notre marche avec Dieu. Et pourquoi pas lire un dernier verset. Alors peut-être j'aimerais vous encourager, peut-être à fermer les yeux. Et je vais lire un psaume, un peu comme une prière. C'est une prière que je fais moi au Seigneur. Et si vous avez envie aussi de renouveler votre engagement envers le Seigneur, peut-être que ce psaume peut être votre prière ce matin. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alors j'ai envie de nous dire, ne soyons pas comme l'église d'Éphèse, et que le Seigneur ne nous reproche pas d'avoir perdu la flamme du premier amour. Alors que notre engagement, notre amour pour le Seigneur, soit tout simplement le reflet de notre intimité avec lui. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta parole. Merci pour ta fidélité, parce que même là où je demeure, peut-être parfois infidèle, tu demeures toujours fidèle. Merci pour ton amour incommensurable. Merci Seigneur encore pour ces bienfaits. Merci pour ta patience surtout envers moi. Merci pour tes grâces. Merci pour ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Alors donne-moi, c'est vrai, tu mets en nous le vouloir et le faire. Alors je désire, Seigneur mon Dieu, être à tes pieds chaque jour, chaque matin, venir à la source, afin que toute ma vie, tous mes actes, toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions, soient juste le reflet de mon intimité avec toi. Merci Seigneur encore de nous bénir, et que tout soit fait dans nos vies, pour la seule gloire de ton nom. Amen.